Bonjour et bienvenue dans l'Info, c'est clair. On attend toujours de connaître le gouvernement d'Elisabeth Borne. À quoi faut-il s'attendre? Que sait-on déjà de la future équipe ministérielle? L'Info, c'est clair est intitulé « Gouvernement d'Elisabeth Borne, les recalés et les repêchés ». Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régional EBRA, ce qui signifie Est-Bourgogne-Rhône-Alpes. Il y a plein de journaux, dont notamment Le Bien Public, Les Dernières Nouvelles d'Alsace ou encore Le Dauphiné. Claire Gatinois, vous êtes journaliste au service politique du Monde, en une du Monde, les défis politiques de la première ministre Elisabeth Borne. Et puis Guillaume Daré, vous êtes grand reporter au service politique de France Télévisions. Bonjour, merci de participer à cette émission en direct. Alors, constituer un gouvernement, c'est tout un subtil dosage à respecter, avec des poids lourds, des surprises. Alors, pour comprendre comment on compose un gouvernement, Alexandre Perroux a exploré les archives. On regarde.
Ils sont à chaque fois le symbole d'une nouvelle séquence politique. Pour un président et un premier ministre, composer un gouvernement est un exercice périlleux qui doit respecter certains principes. D'abord, intégrer des poids lourds politiques malgré parfois des divergences. Comme en 2002. Jacques Chirac vient d'être réélu. Il nomme alors Nicolas Sarkozy ministre de l'Intérieur. Les deux hommes sont pourtant en froid depuis 1995 et le soutien de Sarkozy à Édouard Balladur. Même chose en 2014, quand Ségolène Royal devient ministre de l'Environnement. Ou en 2017, quand Bruno Le Maire, pourtant très critique à l'égard d'Emmanuel Macron pendant la présidentielle, devient son ministre de l'Économie.
Nous acceptons de mettre de côté les querelles politiciennes inutiles, dans laquelle nous évitons de nous chamailler sur des différences qui n'existent pas.
Deuxième règle à suivre, respecter des équilibres. La parité femmes-hommes, bien sûr, mais aussi des équilibres géographiques pour avoir des représentants de tous les territoires. Enfin, dernier impératif pour qu'un gouvernement marque les esprits, la surprise du chef. Incontournable pour faire d'un remaniement un événement politique majeur. Exemple en 1992. Bernard Tapie, l'homme d'affaires le plus célèbre de France, devient ministre de la ville de François Mitterrand.
Tout le monde a le nez dans le guidon et il y a une motivation incroyable. Tous les gens qui sont dans cette équipe ont une envie farouche de réussir et de gagner. Donc.
Pendant son quinquennat, Emmanuel Macron aussi a surpris avec les nominations de Nicolas Hulot à l'écologie et d'Éric Dupond-Moretti à la justice. Surprise qu'il devra tenter de réitérer avec son nouveau gouvernement.
Alors, Guillaume Daré, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Comment ça se passe, là, d'ailleurs? Elisabeth Borne consulte, reçoit ou qu'est-ce qu'on sait?
Je vais commencer par une évidence, on sait que Jean Castex n'en fera pas partie. Alors, quand, dans un premier temps, on avait dit qu'il pourrait peut-être aller à d'autres postes, affaires étrangères, justice, il l'a dit, il veut passer à autre chose, il l'a d'ailleurs dit sur le perron de Matignon. Elisabeth Borne met visiblement et ostensiblement beaucoup de soin à montrer qu'elle consulte. On a vu les anciens premiers ministres, en tout cas, on l'a su, puisqu'il n'y a pas eu d'image de Bernard Cazeneuve, le socialiste, à Édouard Philippe, les partenaires sociaux également. On a vu plusieurs allers-retours aussi à l'Élysée pour cette consultation habituelle. La vraie question, c'est quelle est sa marge de manœuvre quand on voit que son directeur de cabinet, finalement, avait été choisi avant même qu'elle soit nommée et que ça aurait été le même pour un autre Premier ministre ou pour une autre Premier ministre.
Attendez, c'est incroyable ça. Son directeur de cabinet, donc son premier secrétaire d'Elisabeth Borne, c'est pas elle qui l'a choisi, c'est Emmanuel Macron qui l'a choisi.
Voilà, et ça avait déjà été le cas pour Jean Castex. Seul qui a refusé cela, c'était Édouard Philippe, quand il a été nommé, où on lui avait déjà poussé un secrétaire général qui finalement, Nicolas Revel a été le secrétaire général, le directeur de cabinet de Jean Castex. Édouard Philippe avait dit non, je veux choisir le mien, ce sera Benoît Ribadeau-Dumas. Donc voilà, quelle est vraiment sa marge de manœuvre? On sait que les règles, effectivement, il y a la parité, l'équilibre politique. L'objectif, c'est qu'ils sortent avant la fin de semaine.
Alors, Nathalie Moret, est-ce que c'est un casting quand même? Il y a un côté, on a entendu dans le sujet, il faut des personnalités des territoires, il faut des personnalités de droite, de gauche, des femmes, des hommes, aussi des surprises.
Sur les personnalités des territoires, je pense que c'était vraiment le cas dans les années 90, où effectivement, nous, en presse quotidienne régionale, dès qu'un gouvernement sortait, on regardait si on avait des représentants de nos territoires, enfin de nos régions, dans le gouvernement. Je trouve que c'est moins le cas maintenant, et qu'aujourd'hui, plus que des représentants de chaque région, il faut des gens qui incarnent les régions au sens large. Peu importe qu'ils soient d'une région de l'Est ou de l'Ouest. Honnêtement, ça je pense que c'est plus le cas. Ensuite, là, on est dans le cas d'un gouvernement qui est un quinquennat 2. Donc, c'est un petit peu différent parce qu'il faut vraiment incarner ce que Emmanuel Macron a appelé la nouveauté. Il a dit le jour de son investiture un mandat nouveau. Il a employé plusieurs fois le terme nouveau. Donc, il faut que ça se voit dans la composition du gouvernement. Ça se voit un petit peu avec Elisabeth Borne, puisque effectivement, même si elle faisait partie de l'ancien gouvernement, c'est vrai que le fait qu'elle soit une femme, c'est quand même quelque chose d'important, ça incarne une nouveauté, ouais. etc. Et après, dans la quinzaine de noms qu'on attend pour aujourd'hui ou pour demain, il y en aura sans doute deux ou trois qui sont des sortants, mais il faut vraiment des noms qui fassent un peu un effet waouh, où on montre qu'effectivement, il a entendu ce désir de nouveauté et ce désir de gouverner autrement.
Alors waouh, c'est quoi ? Il y a des noms qui... D'ailleurs, est-ce qu'on vous soumet des noms farfelus, parce que, alors, on a vu Bernard Tapie, Nicolas Hulot avait été sorti du chapeau comme
le
ça.
Le vote n'y figure pas pour l'instant, Axel. Non, mais on va passer.
Des noms farfelus, je ne sais pas, mais en tout cas, on a des. Je pense, comme à chaque remaniement, on a des listes qui circulent, 4, 5, avec un gouvernement quasiment tout préparé, où on ne sait pas exactement d'où ça sort. Est-ce que ce sont les sortants qui espèrent récupérer leur poste, qui du coup se font valoir pour faire partie du prochain gouvernement ou pas?
Vous êtes intoxiqués, vous, les journalistes politiques, hein?
On essaye de se rester à l'écart de tout ça, mais effectivement, il y a toujours, mais comme ce fut le cas aussi pour la nomination de la première ministre, où il y a beaucoup de noms qui ont circulé. Est-ce que c'était des ballons d'essai? Est-ce que c'était des candidats qui eux-mêmes se poussaient? Il y a une espèce de jeu comme ça pour lesquels, voilà, effectivement, il faut arriver à rester serein et sans se faire intoxiquer par les uns ou les autres.
Alors, qui va rester? Qui va partir? Par exemple, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, on dit qu'il a de fortes chances d'être reconduit à son poste, sachant qu'il a fait tout le quinquennat d'Emmanuel Macron, ce qui déjà est une gageure. Et pourtant, on peut imaginer que Bruno Le Maire aurait volontiers visé plus haut et se serait peut-être vu à l'hôtel Matignon. Je vous propose juste de regarder ce portrait de Bruno Le Maire et après, on fait le quiz des sortants et des entrants. On regarde le sujet de Bruno Le Maire.
À l'UMP, Bruno Le Maire commence à déranger. Bac plus 18, tête d'œuf, le charisme d'une huître et même l'emmerdeur. Voilà comment ses adversaires le décrivent, à commencer par les amis de Nicolas Sarkozy. Du côté de ses soutiens, évidemment, c'est tout autre chose.
Il ne manie pas la langue de bois. Donc, il parle ouvertement, sans tabou, et c'est quelque chose qui me plaît.
Quelqu'un de très posé, de pondéré, de juste, d'équilibré.
Il a beaucoup d'envergure et il a la... Je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment représenter l'État et la puissance de l'État.
Alors, qui est Bruno Le Maire? Surdiplômé, passionné de littérature, germanophile, ce père de 4 enfants commence sa carrière au Quai d'Orsay. Il y rencontre Dominique de Villepin, dont il devient le plus proche collaborateur. En 2007, il est élu député. Nicolas Sarkozy le fait entrer au gouvernement. Aujourd'hui, Bruno Le Maire fait la tournée des fédérations de l'UMP. Il s'emploie à casser son image de techno un peu froid. Son credo, le renouveau, décliné dans son style, dans son slogan et jusque dans sa manière de parler.
Alors Nathalie Moret, c'est un reportage qui avait été réalisé en 2014. Bac plus 18, l'emmerdeur. Est-ce que Bruno Le Maire est brillant au point parfois d'agacer, que c'est peut-être là son point faible?
Oui, alors, et puis il agace aussi à l'UMP, c'est en ancienne famille, parce qu'il l'a quitté. Ouais. Il avait fait la campagne, et, il avait postulé pour être président, il avait participé à la primaire de 2016, effectivement en incarnant une nouveauté. Il avait senti qu'il fallait que, ça on ne peut pas lui enlever, qu'il y avait un désir de renouveau dans la société française qui s'est incarné effectivement en 2017, non pas par l'arrivée de Bruno Le Maire, mais par celle d'Emmanuel Macron. Donc oui, il agace parce qu'il a changé de camp. Après, c'est vrai que c'est quelqu'un de brillant. Est-ce qu'il sera au prochain gouvernement? Lui, il dit clairement qu'il ne veut pas faire de tourisme ministériel. En clair, soit il est nommé à Bercy parce qu'il estime qu'aujourd'hui, c'est là où il serait le plus compétent à ce poste-là, soit rien. Est-ce qu'il aurait espéré être Premier ministre? Sans doute, oui, parce que c'est un homme qui est quand même relativement jeune, il a 53 ans, et il a sans doute encore des ambitions présidentielles.
Ah, il a des ambitions. 2017. Oui, d'ailleurs, il s'était présenté.
Oui, il fait partie de cette génération-là qui, effectivement, qui pourrait avoir des ambitions pour 2017. Ah. Il s'en cache, mais en fait...
Être fidèle et pourquoi pas en 2027, l'héritier d'Emmanuel Macron.
En 2027, pardon, oui.
Ouais.
Je n'abandonne rien de mes ambitions. C'est ce qu'il dit régulièrement en coulisses, Bruno Le Maire. C'est vrai que ça a été l'une des grandes réussites politiques de la deuxième partie de ce quinquennat. La première partie du quinquennat, il était très porté sur l'international. Rappelez-vous, à Bercy, à ses côtés, il avait Gérald Darmanin, qui était plus le ministre, finalement, du quotidien des Français. Il y a eu l'impôt à la source que Gérald Darmanin avait mis en place. Et finalement, avec le Covid, on a vu revenir Bruno Le Maire sur le devant de la scène de façon assez efficace, y compris en matière de communication. Rappelez-vous ces images... À peu près tout le monde les a faites, de Bruno Le Maire dans son bureau, appelant à 8h du matin Michel-Édouard Leclerc ou le patron de Super U en disant pendant la pandémie « Pourquoi la farine a pris 8% dans votre supermarché de Vesoul ou de hier ?» Et ça, il a su le jouer. Il sait que c'est une valeur importante auprès d'Emmanuel Macron. Il a tendance à dire aussi que c'est un atout pour le chef de l'État d'avoir quelqu'un comme lui. C'est vrai qu'il peut appeler les différents chefs d'État du monde un peu quand il le veut. Une façon aussi de dire qu'il a des contacts privilégiés avec les différents chefs d'État. Je pense qu'il y a une volonté aussi de sa part... assez clair, effectivement, de dire Matignon, ça m'aurait peut-être été prestigieux politiquement, mais il est convaincu que pour sa carrière, y compris future, en termes de réseau et de carrière future, c'est à Bercy qu'il peut encore marquer des points.
Alors, est-ce qu'on a on a toujours l'équilibre droite-gauche ? Et curieusement, Claire Gatinois, on voit que à gauche, la nomination d'Elisabeth Borne fait l'unanimité contre elle. C'est ce que titrait Libération, alors qu'on voit une Valérie Pécresse faire un tweet de félicitations. Il y a toujours ce penchant à droite dont Emmanuel Macron n'arrive pas à se débarrasser. On a l'impression il a beau nommer des personnalités de gauche, on lui fait le reproche de trop penser à droite.
Tout à fait. Et en fait, c'est sans doute là le plus gros échec en fait de ce premier quinquennat, c'est que Emmanuel Macron est arrivé avec cette volonté du dépassement des clivages politiques. Et en fait, on continue de raisonner. Tout le monde continue de raisonner en gauche, droite, en origine politique. Elisabeth Borne, sa nomination et elle-même le revendiquer
elle vient de la gauche.
Comme quelqu'un de proche du Parti socialiste, même si elle n'a jamais adhéré au Parti socialiste. Donc il y a toujours cette référence en fait qui perdure et cette incapacité, comme vous le disiez, à trouver un bon équilibre. Dans le premier quinquennat, il y a eu finalement des équilibres qui ont été trouvés entre la gauche et la droite, mais les figures politiques qui venaient de la droite, vous parliez tout à l'heure de Bruno Le Maire, de Gérald Darmanin, étaient beaucoup plus présentes et pesantes, finalement, que celles qui venaient de la gauche, comme Olivier Véran ou des gens comme ça.
Bon, alors, les entrants, les sortants, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire pourraient rester ? Vous me faites des signes de l'œil, si je me trompe.
Alors, si je peux me permettre, sur Bruno Le Maire, en fait, ce que vous disiez tout à l'heure, qui pousse, en fait, qui plaide pour qu'il reste, effectivement, il a été très populaire, il a mené un travail extraordinaire, finalement, à Bercy, enfin, qui a en tout cas été salué, avec la mise en place du quoi qu'il en coûte, avec la gestion de la crise Covid, qui ne s'est pas du tout traduit par une catastrophe économique. Mais finalement, ce qui plaide pour qu'il reste, plaide aussi en sa défaveur, puisqu'on sait qu'Emmanuel Macron n'aime pas trop les gens qui pourraient lui faire de l'ombre. Ah. Il n'aime pas non plus les baronnies. Donc, rester 5 ans à Bercy, si c'est pour que ça devienne une machine...
Un emmerdeur, comme on l'a vu dans le
exactement.
Sujet.
Exactement. Donc, ça peut finalement lui porter préjudice.
Alors, je continue mon petit quiz. On donne perdant. Vous me faites des signes de l'œil si je me trompe. Éric Dupond-Moretti, partant. Non reconduit. Vous validez, il n'y a pas de commentaire.
Il peut toujours y avoir des surprises, puisqu'on sait que, visiblement...
Qu'est-ce qu'on lui reproche, Éric Dupond-Moretti ?
On lui reproche la mise
ado,
en examen, surtout.
La mise en examen, voilà. Oui.
Et après, ce qui aurait pu plaider pour son maintien, en tout cas quelques mois, c'est de poursuivre son travail et de la mise en place des états généraux de la justice.
Jean-Michel Blanquer, partant également.
Partant.
Partant. Olivier Véran. Pourtant, alors Olivier Véran, quid de lui ? On n'a vu que lui, c'est lui, ça a été le chef d'orchestre du confinement et des mesures sanitaires.
Il ne cache pas qu'il a très envie de rester et avoir un gros ministère social, c'est son ambition. Après, effectivement, c'est un nom qui est quasiment absent de toutes les listes qu'on a reçues.
Ouais. Est-ce que c'est dans le coup de l'impôt ?
À ce jour, je ne sais pas.
Et alors, il aurait pu prétendre, y compris à Matignon. Alors, effectivement, le président voulait une femme, mais... Il vient de la gauche. Il aurait pu prétendre à ce poste-là.
Mais qu'est-ce qu'on lui reproche, Olivier Véran ?
Alors, on lui reproche peut-être ce qui est une fois de plus aussi en sa faveur, c'est-à-dire qu'il est peut-être trop marqué par la crise du Covid. Ah. Et vous le disiez tout à l'heure, en fait, il faut tourner la page.
Alors justement, les nouveaux arrivants, pour tourner la page, il y a des personnalités de droite qui sont, en tous les cas, qui ont fait allégeance. Ont-ils des chances d'avoir un Marocain, Damien Abad, Éric Woerth? Ou est-ce que non, la droite, ça suffit, va dire Emmanuel Macron?
Damien Abad, lui, veut être ministre. Il n'en fait pas mystère. Il a subi vraiment comme ça une réunion de groupe en début de semaine qui était en visio, où il a été vraiment au centre de toutes les critiques de son camp en disant maintenant... Ah ouais. On te somme de choisir, soit tu restes, soit tu pars. Il a demandé 48 heures de réflexion. 48 heures, c'est aujourd'hui. Donc, il espérait avoir un coup de fil pour qu'on lui dise, voilà, rentre au gouvernement. Moi, a priori, jusqu'à hier soir, ce coup de fil n'était pas arrivé là. Est-ce qu'il va faire le choix de sauter le pas et d'aller en Macronie? Honnêtement, je pense qu'en ce qui concerne Damien Abad, c'est un choix qu'il aurait dû faire il y a 5 ans. Tout dans son ADN politique le commandait d'aller en Macronie. On se rappelle qu'il vient quand même de l'UDI, que ça a été un proche de Bruno Le Maire. Et c'est il n'a pas fait le choix de rentrer en Macronie. 5 ans plus tard, il se retrouve un peu malgré lui entre deux feux, et il est aujourd'hui sommé de faire un choix.
Et c'est terrible ça, parce que on passe pour un traître auprès de son camp, donc c'est un départ sans retour. Et s'il n'est pas pris en tant que ministre, il aura tout perdu.
Quoi. C'est ça.
La fin de sa carrière politique. Alors personnalité de gauche maintenant. Marisol Touraine, Audrey Azoulay. Marisol Touraine qui était ministre des Affaires sociales sous François Hollande.
Oui, alors on me disait de ne pas oublier que Marisol Touraine avait longtemps, je crois à son époque rocardienne, travaillé sur les questions de défense également.
Ah.
Et que ça pouvait être parmi les noms qu'on entend, une prétendante légitime au poste du ministre de la Défense. Après, je pense que dans le petit jeu du mercato gouvernemental, ce qui est compliqué, c'est que si... comme tous les gouvernements qu'on nous annonce juste avant des législatives, c'est un gouvernement dit resserré, je vous dis ça avec le sourire, parce qu'après ça s'élargit en général, 15-16 ministres, mettons 8 hommes, 8 femmes, disons à peu près moitié-moitié droite-gauche, finalement, il n'y a pas beaucoup de place non plus pour des entrants. Si, imaginez, à droite, par exemple, on partait pour Damien Abad, s'il se trouvait qu'au final, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire reste, ça va être compliqué pour faire entrer beaucoup d'hommes de droite au sein du gouvernement. Donc c'est un équilibre qui est difficile à trouver aussi sur ce plan-là.
C'est le côté casting. Au début, on dit un gouvernement resserré, et puis ah tiens, il faut quelqu'un de l'outre-mer, ah tiens, il faut quelqu'un qui représente la gauche, etc. Donc à la fin, on finit à 25.
Ou à 40.
Ou 40. très bien. Ah oui, Jean-Yves Le Drian, j'allais oublier. Lui, il part. Alors c'est rare, ça, de voir un ministre, surtout un poste très prestigieux et en pleine tempête, dire « écoutez, moi j'en ai assez, je veux aller couper mes roses en Bretagne ».
C'est François Hollande même qui l'a annoncé de façon jugée inélégante par l'entourage de Jean-Yves Le Drian il y a quelques jours, je crois, sur « C'est à vous », disant qu'il allait arrêter. Faut dire que ça fait 10 ans désormais qu'il est présent, hein, puisqu'il était ministre de la Défense justement de François Hollande, puis ministre des Affaires étrangères aujourd'hui. Je pense qu'il y a une volonté, y compris de sa part, de tourner une page et que ce poste prestigieux des affaires étrangères soit incarné par quelqu'un d'autre.
Bon, et pour les surprises, on verra.
Pour les surprises, on verra. Et effectivement, il y a une équation assez complexe, puisqu'il ne faut pas donner l'impression que ce nouveau gouvernement est juste un jeu de Tetris où on prend les anciens, on les remet dans d'autres cases, mais incarner une sorte de renouveau. Et c'est là toute la complexité d'un second quinquennat.
Alors, comment apprend-on qu'on est nommé ministre et qui vous téléphone? Eh bien, écoutez, Thierry Breton a fait à moitié une gaffe en révélant que ce n'était pas le Premier ministre, puisque je parle sous votre contrôle, théoriquement c'est le Premier ministre qui constitue son gouvernement, que c'était un coup de fil de Jacques Chirac, alors qu'il était en vacances en Italie, qu'il l'a eu au bout du fil pour le convoquer à Paris et le nommer ministre. Il a raconté ça dimanche dernier, Thierry Breton, c'était sur France Inter, on l'écoute.
Je me souviens parce que j'étais en train de faire une petite marche dans les Dolomites, et puis j'ai eu Jacques Chirac qui m'a appelé sur mon téléphone, il m'a demandé de me tutoyer, il m'a dit... Tu es où? J'ai 3 jours, là, je suis en train de marcher dans les Dolomites. Et il me dit, écoute, il faut que tu sois à 16h dans mon bureau. Je lui dis, c'est important, monsieur le président? Il me dit oui. Bon, j'ai compris qu'il allait se passer quelque chose d'important. Et à 16h, j'étais dans son bureau et ma famille a appris à 20h que et ma famille a appris à 20h par le journal de télévisé que j'étais devenu ministre.
Et on rappelle que selon la Constitution française, c'est le Premier ministre qui fait son gouvernement et pas le président de la République. Mais vous avez raison.
Non, c'est souvent le président. Alors, vous avez parfaitement raison, puisque quand je suis arrivé dans son bureau, il ne m'avait pas dit pourquoi. Ah. Il y avait Jean-Pierre Raffarin.
Ah, voilà.
Il était là. Et c'est Jean-Pierre Raffarin, bien entendu, qui me l'a proposé. Mais je reconnais que le président de la République écoutait ce que disait Jean-Pierre Raffarin.
Et Nathalie Mouret, c'est encore plus vrai aujourd'hui avec le quinquennat. En fait, le Premier ministre est un collaborateur, pour reprendre l'expression du président. Oui. Et avec Elisabeth Borne, ce sera très vrai.
Et on voit d'ailleurs qu'Elisabeth Borne le sait et il fait très attention. Ils ont quand même tous les deux bien communiqué sur le fait qu'ils avaient passé 3 heures ensemble. Sous-entendu, la copine était vierge et il a fallu qu'on travaille ensemble. C'est ça qui se joue. Parce qu'on sait très bien que, in fine, c'est le président de la République qui décide quasiment de tout. Et que, effectivement, Elisabeth Borne va essayer d'imposer un certain nombre de ses choix et de ses proches. Mais c'est une histoire d'équilibre. Voilà, faire croire ou afficher le fait qu'on travaille encore. Et le fait qu'on n'est pas aujourd'hui, 3 jours après la nomination de la première ministre de gouvernement, plaide en ce sens.
Ils travaillent bien ensemble, Claire Gatinois, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il l'a choisi. Là, pour le coup, je reprends l'expression, c'est pas une emmerde, non mais c'est par rapport à Bruno Le Maire de tout à l'heure, hein, n'allez pas croire que je vais être vulgaire.
Oui, non, Elisabeth Borne a cette image de bonne élève. Voilà. En fait, elle exécute, elle argumente,
c'est une ingénieure, donc elle propose des solutions.
Voilà, exactement, donc on l'a vu au ministère de la Transition écologique, dans tous les postes qu'elle a occupés, en fait, elle accomplit des missions. Et il se trouve qu'effectivement, le président l'apprécie et le fait savoir.
Ses premiers pas, Guillaume Daret, depuis sa nomination, on la disait froide, peu connue.
Oui.
Elle est connue des journalistes politiques, mais peu connue du grand public. Alors,
y compris, j'allais dire, dans le signe politique que veut adresser le président de la République. Je pense qu'il y a une partie des électeurs de gauche, effectivement, qui savent qu'elle est plutôt de sensibilité de gauche. Les électeurs de droite, je pense, ne savent pas qu'elle est de gauche et la voient davantage comme une technicienne. Ce qui est d'ailleurs peut-être le sens du choix d'Emmanuel Macron, hein, de ne pas avoir quelqu'un, par exemple, on avait évoqué le nom de Marisol Touraine, qui aurait été trop marquée à gauche comme ancienne ministre, par exemple, du gouvernement de François Hollande. On voit que ses premiers pas, effectivement, sont prudents. Il y a eu un discours lors de sa prise de fonction et de la passation avec Jean Castex, où elle a voulu mettre en avant, effectivement, ce que représentait sa nomination en termes de progrès pour toutes les jeunes femmes et toutes les jeunes filles. Et d'ailleurs, symboliquement, elle fera son premier déplacement cet après-midi au Mureau, en région parisienne, où elle va notamment rendre visite à des associations qui travaillent sur l'égalité des chances et en particulier les droits des femmes et des jeunes filles.
Ah voilà, parce qu'elle a dédié sa nomination, on se rappelle, très émue à toutes les petites filles. Alors, l'annonce du gouvernement pourrait tomber en fin d'après-midi, voire demain, vous avez l'air de dire.
Le problème, c'est que vous rappelez, il y a cette image où on voit le micro sur le perron de Matignon en attendant le secrétaire général. Ça peut durer parfois assez longtemps.
Alors, si ça traîne, c'est qu'il faut s'assurer, avant de nommer une personnalité ministre, qu'il n'y a pas de cadavre dans le placard, comme on dit, qu'il n'y a pas de compte caché en Suisse, que toutes les amendes et les impôts sont bien payés. Pourquoi je précise ça? Parce qu'en 2014, François Hollande avait eu la très désagréable surprise. Il avait nommé Thévenoud. Voilà. En 2014, Thomas Thévenoud, qui ne payait pas ses amendes, il avait, on se souvient, la phobie administrative. Bah, on s'en était rendu compte un peu tard. Et du coup, il avait dû démissionner piteusement. 9 jours plus tard, tout ça ne faisait pas très professionnel. Je vous propose de revoir ce sujet, on en avait beaucoup parlé à l'époque, de la phobie administrative de Thomas Thévenoud, sujet du 5 septembre 2014.
Le meilleur. Jovial et insouciant, Thomas Thévenoud, lorsqu'il tombe dans les bras d'Arnaud Montebourg.
C'est le porte-parole du groupe socialiste. C'est Thomas Thévenoud et il est d'où ? De Saône-et-Loire.
C'était à la fête politique de Frangy-en-Bresse, il y a 2 semaines. Des déclarations de ce jour-là vont coûter son poste à l'un, Montebourg, et propulser l'autre, Thomas Thévenoud, au gouvernement. Mais le nouveau secrétaire d'État au commerce extérieur ne sera qu'un ministre éphémère. 9 jours. À 19h hier, l'Élysée annonce que le président de la République met fin aux fonctions de Thomas Thévenoud à sa demande et pour des raisons personnelles. Quelques minutes plus tard, le ministre, démissionné, reconnaît des retards de déclaration et de paiement au fisc, désormais intégralement régularisés. Visiblement, Il n'a fait aucune déclaration fiscale depuis plusieurs années. Chez ses collègues du groupe socialiste à l'Assemblée, c'est l'incompréhension car il savait qu'en devenant ministre, il se plierait à de nouveaux contrôles. Thomas Thévenoud a été vice-président de la commission Cahuzac. Il avait alors fait des déclarations tonitruantes sur la République exemplaire.
Où est-ce qu'il vous a fait référence?
La République exemplaire, c'est quoi? Ce sont les ministres qui rendent public leur patrimoine. La République exemplaire, c'est le renforcement des sanctions pénales pour ceux qui fraudent, pour ceux qui n'en remplissent pas leur devoir fiscal.
Pour Thomas Thévenoud, c'est sans doute un coup d'arrêt à une carrière prometteuse.
Bon, Nathalie Moret, on en rigole, mais c'est vrai que quand on est nommé ministre, on sait qu'on va avoir... En fait, sa vie personnelle ne vous appartient plus. On va être épié, épluché, 24 heures sur 24. Il y a un côté sacerdoce.
Oui, et c'est comme ça, par exemple, le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, avocat très connu en France, qui arrive à la surprise générale, c'était une des surprises du remaniement du premier quinquennat. Il arrive au ministère de la Justice, et très vite, on épluche son patrimoine, et on s'aperçoit que c'est un homme... extrêmement, enfin très 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 riche, et tout de suite il y a eu une espèce de suspicion sur lui comme ça, et lui disait, je me souviens très bien de cette interview, en disant vous rendez compte, mon patrimoine va être rendu public et même mes propres enfants ne savent pas combien j'ai. Donc effectivement c'est dans certaines situations quelque chose de qui peut être un peu gênant pour les personnes nommées, et en même temps ça fait partie de la transparence. Aujourd'hui, alors qu'il y a une telle défiance du monde politique, c'est normal de savoir combien dispose un ministre ou un homme politique à sa nomination, puis quand il s'en va, pour savoir si effectivement il n'y a pas d'enrichissement personnel. Est-ce que ça sert à quelque chose? Je n'en suis pas convaincue, parce qu'on voit que depuis que cette loi existe et depuis que la Haute Autorité fait des vérifications, le personnel politique n'a pas gagné en crédibilité au niveau du grand public, mais en tous les cas, c'est l'usage.
Ouais. Claire Gatinois, on reprochait à Éric Dupond-Moretti de passer par les ministères pour s'enrichir. On s'aperçoit bien que c'est le contraire. Éric Dupond-Moretti gagnait excessivement bien sa vie en tant qu'avocat. Il devait facturer l'heure... je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros, les politiques ont l'image d'être des corrompus qui font carrière pour leur intérêt personnel. Est-ce que ce n'est pas injuste comme critique? C'est une question que je pose. Est-ce que ce n'est pas on fait vœu de, non pas de pauvreté, mais...
Oui, c'est ça, on ne va pas les plaindre, oui. Parce qu'ils sont quand même bien rémunérés. Je pense que peut-être au-delà des questions de rémunération, c'est surtout une question de prestige et d'appât du pouvoir, finalement. D'accord. Donc, je crois que c'est un ministre qui parlait de l'effet pimpon qu'adorent les ministres. C'est ce côté, j'ai ma voiture de fonction, on met le pimpon et je traverse Paris en 10 minutes. Donc, il y a ce côté-là, le fait, effectivement, d'être exposé médiatiquement, d'être connu, et cet appât de la puissance, en fait, qui est attribué à tout ministre.
On a une vie à 400 à l'heure, on ne s'arrête jamais, il n'y a pas de week-end, il y a l'effet pimpon, on vous amène à un avion, l'hélice est déjà en train de tourner, et vous décollez dans la minute qui suit.
Il y a ça, mais ça...
C'est une vie trépidante, fatigante, mais passionnante.
Oui, mais ça concerne quand même assez peu de ministres, finalement, dans le gouvernement. Parce que regardez, si on prend le gouvernement sortant, on ne va pas les citer, et je ne dis pas ça du tout de façon méprisante, mais comme on le dit, il y a parfois un certain nombre de ministres dont les Français vont apprendre l'existence quand ils vont quitter ce gouvernement-là. Parce que finalement, les plus médiatiques et les plus connus, on cite Éric Dupond-Moretti, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, il n'y en a pas 10, on en est à 4 ou 5. Donc finalement, cette vie-là... elle concerne les ministres les plus connus et encore plus dans la crise qu'on a pu vivre avec la pandémie. Je pense que tout le monde autour de la table, vous avez entendu les mêmes ministres vous raconter qu'en réalité, notamment Bruno Le Maire, parce que lui était aux premières loges, qu'en fait, pendant 2 ans, quelque part, la France a été gérée par le président de la République, le Premier ministre et 4 ou 5 ministres, et que honnêtement, les autres n'avaient rien à faire. Et que c'est pour ça aussi que je pense que pour des personnalités qui gagnent très bien leur vie, dans le privé notamment, même si on leur propose d'être ministre, au-delà du prestige du poste ministériel, ils se posent là sérieusement la question d'entrer dans ce type de vie-là.
Il y a des refus.
Oui, je crois qu'il y a des refus quand on tâte les choses. Après, pour le poste de Premier ministre, j'ai demandé l'autre jour à Jean Castex, que j'ai vu vendredi, je lui ai demandé comment ça se passe quand on est nommé Premier ministre. Est-ce que le président de la République, il voit 5-6 personnes, il fait des entretiens d'embauche et au final, il tranche? Ou est-ce qu'il vous convoque et il vous dit « Axel, c'est vous que j'ai choisi de nommer Premier ministre, vous n'avez pas le choix ».
Voilà la surprise.
Voilà. Et il me dit « Non, effectivement, il ne voit pas 5-6 personnes, il envoie une ou deux, il vous fait venir et il dit c'est vous que j'ai choisi pour nommer Premier ministre. Néanmoins, vous avez quand même le choix. Jean Castex m'avait dit, comme pour tout poste, je vous conseille de ne pas dire oui tout de suite. Ça permet quand même de négocier deux ou trois points. Mais pour revenir sur la vie de ministre et les règles, notamment sur le plan financier, c'est vrai qu'il y a aussi un aspect déclaratif. Et sur cet aspect-là, le président et le Premier ministre ne peuvent pas toujours déceler quelque chose qui serait caché. Un ministre me racontait par exemple qu'Édouard Philippe, quand il était Premier ministre, avant de le nommer, lui avait dit « Bon, bah, je te donne 12 heures pour fouiller dans les souvenirs de ta vie pour voir s'il n'y a rien qui pourrait nous poser problème. » Donc c'est ça aussi, de voir ce qui ne pourrait mettre, j'allais dire, en danger médiatique l'équipe gouvernementale à laquelle vous allez appartenir.
D'autant que, alors évidemment, mais la société progresse et les mœurs, on est plus exigeant. On a vu que Jérôme Peyra, qui représentait la France insoumise... La République en marche, condamné pour violence conjugale, a dû abandonné, ainsi que Taaf Bouaf pour harcèlement sexuel. Pour revenir sur ce soupçon de conflit d'intérêts, d'argent, de « je suis ministre pour m'enrichir », il a été reproché à Jean-Baptiste Djebbari, qui était ministre des Transports, immédiatement d'aller travailler pour une start-up. Une start-up qui, en plus, est dans l'automobile, qui veut assembler des voitures à hydrogène. Alors, en même temps, Jean-Baptiste Djebbari, il venait du privé. Il y a toujours ce soupçon de j'utilise mes connexions que je me suis fait en tant que ministre au service d'intérêts privés, même si là, en l'occurrence, la HATVP n'a rien trouvé à redire.
Oui, effectivement. Et en même temps, moi, j'ai plutôt envie de défendre Jean-Baptiste Djebbari, pour le coup, parce qu'il aurait pu faire le choix de se présenter aux législatives, en Haute-Vienne, de là où il est élu, de se faire élire et de rester pendant des années ministre ou député, etc. Et de faire c'est tout ce que les gens n'aiment pas, finalement. Donc, on ne peut pas reprocher aujourd'hui à quelqu'un de ne pas passer sa vie en politique et de venir faire une mission pendant quelques années. Bon, il a été élu député, puis ça fait 2 ans et demi, je crois, qu'il est ministre. Et puis maintenant, il retourne dans le privé, ce qui était son premier...
Il était pilote.
Il était pilote. Il était aussi dans le domaine des transports, donc il n'a pas non plus changé de vie. Après, c'est normal qu'une start-up utilise son carnet d'adresses pour se développer. Finalement, aussi, il y a aussi des ministres qui choisissent de faire fructifier leur carnet d'adresses au sein de cabinets d'affaires où ils sont richement payés. C'est quelque chose qui... je trouve que Jean-Baptiste Djebbari a quelque part plus clair. C'est-à-dire, il dit, moi, je ne fais pas profiter de mon carnet d'adresse à un cabinet d'affaires, je vais dans le privé pour faire
un
entrepreneuriat, etc. Parce que finalement, ça a le mérite de la clarté.
Ce qui est maladroit, c'est plus le fait que ce soit timing. Annoncé
avant même
d'avoir quitté le gouvernement.
Le timing qui est
exactement,
pas très bon.
Exactement, le timing était quand même assez malheureux.
Mais sinon...
Et effectivement, le secteur d'activité... pose quand même question.
Ministre des Transports, travaille dans l'automobile.
Voilà, il y a quand même des questions et on sait qu'il y a des vérifications, mais il y a quand même rarement des moments où la haute autorité refuse des conversions de ministres.
Alors, est-on préparé à être ministre, à avoir le pimpon? Mais il y a plein d'autres choses au-delà du pimpon. Je propose d'écouter ces deux témoignages hallucinants de Roselyne Bachelot et de Frédéric Mitterrand, mais qui racontent qu'ils étaient complètement perdus quand ils sont arrivés dans leur ministère. Ils ne savaient pas du tout ce qui les attendait. On regarde ce double témoignage.
C'est un bouleversement que le temps passé n'a pas effacé de sa mémoire. Le jour où Roselyne Bachelot, députée mais pharmacienne de formation, devient ministre, c'était en 2002.
Le premier sentiment qui vous envahit, c'est une trouille démente. Parce qu'on ne vous apprend rien, on ne vous dit rien. Personne ne vous dit qu'il va falloir embaucher un directeur de cabinet, un chef de cabinet, des conseillers. Vous ne savez absolument pas comment la République fonctionne.
Son conseil au ministrable, comme saint Thomas, ne croire que ce que l'on voit.
En 1995, où j'ai eu un coup de téléphone de Chirac m'annonçant que j'étais ministre, et puis il a oublié de me dire que je ne l'étais pas. Donc je dis au ministre... Quand on va vous téléphoner, prudence, la seule chose qui vaille, c'est l'annonce par le secrétaire général sur le perron de l'Élysée de la liste des ministres.
Monsieur Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication.
Pour Frédéric Mitterrand, c'était en 2009. Il l'a appris très tôt, devenir ministre est un processus au long cours. Il faut endosser le costume. Ministre sud-africain de la
Culture et... Quand vous commandez, tout le monde vous dit oui, monsieur le ministre. Et puis les choses ne se font pas. Quand vous arrivez à convaincre, les choses se font.
Avec le recul, l'ex-ministre livrerait ce conseil à ceux que la fonction attend.
Le directeur du budget est arrivé le premier jour avec un dossier de 800 pages pour m'expliquer comment marchait le ministère. J'ai dit, écoutez, je suis désolé, mais moi, je ne lirai pas 800 pages. J'ai beaucoup d'autres choses à faire. Alors, si vous pouvez revenir en m'apportant une page. Et il est revenu le soir avec une page. Mais évidemment, la petite affaire avait fait le tour du ministère et tout de suite avait créé un certain remous.
Ce qu'ils retiennent tous deux, ce sont les surprises, les inattendus qui rythment les premiers pas.
Tout le monde me dit qu'il faut que tu écrives un livre. Voilà, sujet de Marion Mercier. On est ministre débutant, d'ailleurs, Nathalie Mouret. On sait que souvent, il y a des transferts de la société civile qui se sont mal passés, de ministres qui n'avaient pas les codes. On se souvient de Christine Lagarde, face à la flambée des prix de l'énergie, qui avait dit, bah, écoutez, vous avez froid, mettez un pull. Donc, vous vous souvenez pas de ça? Elle avait dit ça à Jean-Pierre Elkabbach. S'il fait froid, je conseille aux Français de mettre un pull. Il y a des grèves qui prennent plus ou moins. Il faut dire que c'est faire fonctionner un ministère.
Il y a des fonctions. En fait, vous avez le ministre qui arrive et puis il y a l'administration. L'administration, elle reste. Donc, il y a des directeurs de services, etc. Eux sont très puissants, notamment au ministère de la Culture, par exemple. Vous avez la direction du patrimoine, la direction du cinéma, la direction du spectacle vivant. C'est quelque chose d'extrêmement lourd. Et eux, ces gens-là, ils restent. Donc, ça veut dire que quand ils voient arriver un ministre, si, en plus, c'est quelqu'un, ce qui est souvent le cas au ministère de la Culture, d'un peu connu, parce qu'il est artiste, comme Frédéric Mitterrand, par exemple, qui était un nom, etc., mais qui ne connaît pas le fonctionnement de l'administration, c'est très, très facile de le hacher menu. Il le raconte très bien.
C'est les ministres qui ne prennent pas la main sur leur ministère, c'est ce que vous me dites. Qui se font, au fond, c'est l'administration centrale qui gouverne.
Oui, ou alors qui mettent du temps à mettre. Parce que après, le ministre a quand même un droit de signature, etc. Donc, est puissant, mais s'il arrive à mettre la main sur son administration, et ça dépend de la personnalité de la qui est nommée.
Il y a aussi ce nomadisme qui interroge. Je prends Gérald Darmanin, qui était au budget et qui est passé à l'intérieur. On peut, comme ça, en un quart d'heure, devenir un spécialiste des questions budgétaires et s'improviser spécialiste des questions de police ?
Dans le cas de Gérald Darmanin, c'est plutôt très bien passé, puisque visiblement, l'intérieur, c'est ce qu'il visait initialement. Et puis, il y a une espèce de hiérarchie, on a l'impression, dans certains ministères. Mais il y a des cas où ça se passe effectivement pas très bien. On se souvient de M. Douce de Blasi, quand il est arrivé aux Affaires étrangères, qui avait été un peu méchamment surnommé le ministre des Affaires qui lui sont étrangères. Donc, il y a parfois, effectivement, des greffes qui ne prennent pas, et puis des gens qui ne sont pas forcément à la place. Vous parliez tout à l'heure d'Éric Dupond-Moretti. Il a été nommé pour être ministre de la Justice. Est-ce qu'il serait capable de faire autre chose ?
Ouais. Guillaume Daré, on a vu dans le sujet Roselyne Bachelot dire « j'attendais mon téléphone », etc. Il y a beaucoup de candidats ministres là, qui attendent fébrilement sur leur téléphone un coup de fil.
Oui, je crois que c'est dans les colonnes justement du Monde. Qui disait, si c'est Alexis Kohler, le secrétaire général, qui appelle, il ne faut pas décrocher, ça veut dire que vous êtes recalé.
Ah.
Si c'est Emmanuel Macron, il faut décrocher, parce que c'est plutôt lui qui appelle pour les bonnes nouvelles.
Ah.
Donc effectivement, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont sur leur téléphone. Après, il y en a quand même un certain nombre, que ce soit avec Emmanuel Macron ou dans les précédents quinquennats, qui expliquent que certes, ils avaient été approchés, mais que jusqu'à l'instant où la liste du gouvernement est élue sur le perron de l'Élysée, ils ne savaient pas officiellement qu'ils allaient être ministres.
Il y en a qui l'apprennent quasiment.
Oui. À la télévision, absolument.
Ah, c'est incroyable, ça. Alors, encore faut-il que Emmanuel Macron ait une majorité à l'Assemblée nationale, et encore faut-il que Elisabeth Borne remporte l'élection aux législatives, puisqu'elle va être candidate. Elle va être candidate dans le Calvados, où Elisabeth Borne a ses origines. Voyez ce sujet de Caroline Mott.
Elisabeth Borne est née à Paris, mais elle a des racines dans le pays d'Auge, à Livarot. Sa mère est née ici et son grand-père a été maire de la commune, à 50 km de là, à l'autre bout du département. Quand on prononce le nom d'Elisabeth Borne, personne ne semble la connaître. Elle est pourtant candidate aux législatives ici. Vous la connaissiez ? Vous avez entendu parler d'elle ?
Pas du tout. Le nom m'a rien dit du tout, je suis désolé.
Notre mère l'a vue, la sœur Amie. Mais bon, elle est très gentille apparemment. Mais bon.
Ouais, elle a l'air sympa.
Pour certains, sa nomination pourrait peser dans les dossiers prioritaires.
Comme elle peut faire partout, hein, l'écologie, le travail, la santé, voilà, les priorités du moment.
La première ministre est venue ici à Vire il y a 10 jours. Dans cette circonscription, elle affrontera un jeune étudiant à gauche et un candidat du Rassemblement national.
Nathalie Moret, pourquoi se présente-t-elle? Quel intérêt y a-t-il à se présenter aux élections législatives? De toute façon, elle ne va pas être députée, elle a déjà même annoncé. Dès que je gagne, je démissionne et c'est mon suppléant qui prend mon poste.
Alors, c'est un choix qu'elle avait fait avant d'être nommée première ministre, hein, de prendre cette circonscription qui est l'ancienne circonscription d'Alain Touré, qui était un parti radical de gauche, proche d'Emmanuel Macron un temps. Donc, elle avait envie de poursuivre en politique. Là, pourquoi elle maintient sa candidature? Parce que le premier ministre, c'est le chef de la majorité. Donc le fait qu'elle obtienne un poste de députée, ça lui donne une crédibilité pour diriger la majorité, tout simplement pour ça.
Et Claire Gatinois, si jamais elle est battue, qu'est-ce qui se passe? Si jamais elle n'est pas élue députée, enfin elle perd l'élection?
Si elle perd l'élection, je pense que du coup le chef de l'État sera contraint de trouver une autre première ministre, puisque ça vous invalidera finalement sa légitimité.
Donc elle joue son poste dans son élection.
Elle joue son poste, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce que vous disiez dans votre reportage, c'est que c'est quand même une circonscription qui est plutôt acquise à Emmanuel Macron. Il y a peu de chances, c'est pas, rien n'est jamais gagné, mais il y a quand même peu de chances qu'elle la perde. Et surtout, son statut aujourd'hui de première ministre la rend d'autant plus attractive en fait, pour les électeurs. Ce qu'on voyait aussi dans votre reportage, c'est-à-dire que les gens vont se dire, si elle est première ministre, peut-être qu'elle aura plus de poids au gouvernement pour nous aider, faire avancer tel ou tel dossier, même si du coup, effectivement, elle ne sera pas évidemment députée et qu'elle laissera la place à son suppléant.
D'accord. Et donc, elle a peu de chance.
Faire une cible un peu plus forte dans cette circonscription et mobiliser les oppositions contre elle. On va parler de la 6e circonscription du Calvados comme jamais.
Alors, nationaliser le scrutin.
Les législatives, c'est dans moins d'un mois maintenant, c'est le 10 et le 19. La principale force d'opposition, dit-on, ce sera la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne se présente-t-il pas en tant que député, d'autant que s'il disparaît, pour le coup, lui, le soir du 19 juin, s'il n'est même plus député? Non, Nathalie Moret, comment ça se
Il ne disparaîtra pas, puisqu'il aura quand même... Il y aura un fort groupe d'insoumis à l'Assemblée nationale si la NUPES ne gagne pas l'élection. Pourquoi il ne va pas? Parce que je pense que chez lui, il y a une certaine lassitude d'être député. C'est quelqu'un qui, même en 2017, s'était posé la question d'être député ou pas. C'est un intellectuel. Il a envie de réfléchir, il a envie d'écrire. Il a envie aussi, et ça c'est un peu son côté mitterrandien, de transmettre. Et s'il a réussi à faire quelque chose, c'est au moins de faire naître une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques. Hein. Aujourd'hui, les gens comme Mathilde Panot, Manuel Bompard, Adrien Quatennens sont des gens qui comptent dans la vie politique française. Il y en aura d'autres et c'est quelque chose qui est aussi à mettre à son crédit.
Alors pourquoi je vous parle de Jean-Luc Mélenchon? Parce que ça paraissait un peu téléphoné. C'est parce que tout le monde est admiratif de la façon dont il a réussi à réunir sous cette même nupe différents courants, Europe Écologie Les Verts, les socialistes, les communistes, son propre parti, LFI, sauf qu'un premier craquement au sein de cette unité est en train d'apparaître sur la question du burkini à Grenoble. Je vous propose d'écouter hier Laurence Rossignol, c'est l'ancienne ministre de la famille très à gauche hein, de François Hollande, qui est vent debout contre cette décision du maire de Grenoble, Éric Piolle, d'autoriser le burkini dans la piscine. On l'écoute, elle était hier au 4V, vous allez voir ce qu'elle pense d'Éric Piolle, le maire de Grenoble.
Mais quel crétin! À tout point
vous y allez
de vue.
Comme ça?
Ah mais bien sûr. D'habitude, on dit que l'extrême droite apporte dans les campagnes électorales le burkini, la burqa, le voile, le foulard, et on pense que ça pollue le débat politique. Eh bien cette fois-ci, ça vient pas de l'extrême droite, ça vient d'un maire écolo de Grenoble. Et je sais ce qu'il y a derrière, parce que je connais ces associations, genre CCIF qui a été dissous, elles ont un agenda. Aujourd'hui, c'est le burkini et c'est une victoire des intégristes, ce qui s'est passé à Grenoble. Ensuite, il y a la loi de 2004 sur le foulard à l'école, dans leur agenda, l'abrogation. Et enfin, l'obligation de neutralité des fonctionnaires. Je pense qu'il y a un déni de ce qu'est l'offensive religieuse dans ce pays et de leur caractère minoritaire.
Il y a un déni de la part de Jean-Luc Mélenchon et de la part d'une partie de cette gauche-là?
Écoutez, je pense que c'est un débat qui est dans la gauche, il faut le purger à un moment donné ou à un autre. Ouais. Et là, ça aide pas. Ça aide pas. Voilà, ça aide pas.
Voilà, Nathalie Moret, elle y va pas par quatre chemins quand même. Vous avez été surprise de...
Il y a deux gauches. Ouais. Il y a une gauche universaliste et Laurence Rossignol en est vraiment l'illustration, et une gauche différentialiste. C'est-à-dire qu'une gauche qui, effectivement, qui n'a pas les mêmes positions sur la laïcité. Ces deux gauches-là se recroisent parfois sur d'autres thèmes qui sont économiques, etc. Mais elles sont très, très différentes et elles sont, sur ce point de vue-là, complètement irréconciliables. On en a l'illustration ici.
Pourquoi Éric Piolle a-t-il fait cette sortie à Grenoble ? Et est-ce que Jean-Luc Mélenchon est furieux de, du coup, de cette, ce coup de tonnerre là,
À gauche, ça montre effectivement que finalement, cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, c'est avant tout et plus que jamais un accord électoral. Ce n'est pas un accord politique. Ouais. Et c'est bien justement ce que dénonce une partie de la gauche et des sociodémocrates en disant attention au Parti socialiste, parce que finalement, en vous rangeant derrière Jean-Luc Mélenchon, vous vous rangez derrière ses idées, derrière une partie des idées des écolos, et notamment celle d'Éric Piolle, comme on peut voir sur le Borghini. Mais ce n'est pas un accord politique, parce que finalement, c'est là, on est là pour sauver des sièges pour les élections législatives. Et on voit bien, qu'y compris au sein du Parti socialiste, notamment sur cette question du Burkini ces derniers jours, ils disent « attention, nous on se revoit en juillet, on n'est évidemment pas sur cette ligne-là, et on va évoluer ». Et il y en a beaucoup en coulisses qui sont vent debout, comme l'est Laurence Rossignol, et qui sont franchement gênés, parce qu'à la fois ils ne veulent pas gêner le vote pour les élections législatives en disant « il faut une force d'opposition, si effectivement Jean-Luc Mélenchon ne va pas à Matignon, la plus importante possible », et en même temps, pas question de s'aligner sur ces positions différentialistes, comme le disait Nathalie.
Et Claire Gatinois, il y a ensuite sur le terrain pas mal de craquements des élus socialistes qui disent « mais enfin, on me parachute un Parisien de la France insoumise ». Qui c'est ce type ? Est-ce que cette NUP, plus la date du 10 juin va arriver, plus... C'est le 12, pardon.
Oui, tout à fait. En fait, on voit que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est une union avant tout électoraliste. Et il y a des craquements qui apparaissent ici ou là. On parlait du Burkini, il y a aussi l'Europe, il y a aussi le nucléaire. Il y a pas mal de sujets de désaccord qui sont plus ou moins mis sous le tapis et qui pourraient ressurgir. Et on se demande, on s'est beaucoup demandé pourquoi Emmanuel Macron traînait à former son gouvernement, à donner ses investitures, etc., etc. Et finalement, on se rend compte que peut-être qu'il y a une volonté politique d'arriver le plus tard possible dans ce combat électoral des législatives pour laisser finalement les adversaires s'autodétruire. Donc la NUPES, on voit, finalement, il y a ces polémiques qui permettent à Emmanuel Macron et à ses députés d'apparaître comme plus que jamais les candidats raisonnables qui auront plus de chances, du coup, de remporter l'élection.
Mais du coup, la NUP devrait ne pas survivre aux élections législatives. Si Jean-Luc Mélenchon n'est plus député, qu'est-ce qu'il représentera au sort du 19 juin, Jean-Luc Mélenchon lui-même ?
C'est une vraie question, en fait. Comment peser politiquement quand on n'est pas à l'Assemblée nationale ou qu'on n'a pas un poste attitré ? Il est capable de peser politiquement. Il reste leader de la France insoumise. Il est quand même très exposé médiatiquement. C'était aussi une question qu'aurait pu se poser Édouard Philippe, dont on connaît aussi les ambitions, qui n'entend pas se présenter aux élections législatives et qui entend peser d'extérieur, prendre un petit pas de recul. Donc la vraie question, c'est justement, est-ce que au cours de tout un quinquennat, on peut arriver à peser politiquement sans être directement dans le réacteur.
D'autant que son discours du soir du premier tour avait clairement laissé entendre, on le voyait à la fin, allez, place aux jeunes.
Voilà, il voulait laisser la main.
Il est parti de façon théâtrale.
C'est une vraie question, puisqu'il laisse aussi entendre qu'il ne veut pas se représenter aux prochaines élections présidentielles, que ce que vous disiez tout à l'heure, il est passé à autre chose, il veut passer la main, il a une nouvelle génération derrière lui. Est-ce que, de la même façon que la NUPES peut tenir, est-ce que tout ce courant peut tenir sans une figure aussi charismatique que Jean-Luc Mélenchon ?
La NUPES,
qui n'a pas encore jeté l'éponge. Hein.
La NUPES, c'est le dernier coup de grâce contre le Parti socialiste. Alors, on a vu en plus que Bernard Cazeneuve avait rendu sa carte. Que va-t-il advenir de ce Parti socialiste ?
C'est très difficile de le dire, je pense, avant le 19 juin. 19 juin, c'est donc le deuxième tour des élections législatives. Combien il y aura d'élus au Parti socialiste qui seront élus dissidents et qui seront élus au niveau...
Parce qu'il y a des dissidents qui refusent la NUP.
Bien sûr. Donc ça, je pense qu'on le verra après. Le Parti socialiste, il faut savoir que c'est un parti qui a déjà beaucoup perdu, mais qui s'est toujours relevé, parce qu'il a, malgré tout, une base militante importantes, dont certains d'ailleurs votent Emmanuel Macron, mais qui sont, j'allais dire, qui sont encore socialistes de cœur, j'allais dire. Il ne faut pas oublier que le macronisme, là, il s'est fini dans 5 ans. Donc le Parti socialiste le sait. Carole Delga, par exemple, qui veut fédérer les ceux qui sont anti-NUPES, le sait. Qu'est-ce qui va se passer après? Quel est l'avenir du PS? Quel est l'avenir des gens qui sont socialistes, mais plus au PS? Ça va se jouer en partie cet été.
Anne Hidalgo, sait-on ce qu'elle devient?
J'ai vu qu'elle reprenait
son atterrissage, son retour à Paris est difficile.
Sa vie de maire de Paris, on l'a vu cette semaine, un peu de façon étonnante. En parallèle, on voit aussi Valérie Pécresse qui fait la même chose cette semaine à la région Île-de-France, en revenant de façon assez présente sur la question de la transition écologique énergétique, en parlant de l'aide aux réfugiés ukrainiens et effectivement en félicitant Elisabeth Borne pour sa nomination à Matignon. Et c'est vrai que la question du PS, c'est est-ce qu'il va y avoir une absorption, y compris idéologique, par la France insoumise, comme on le voit un petit peu au travers de cette nouvelle Union populaire, écologique et sociale, où effectivement, s'ils arrivent à avoir 35 députés, ils survivent et sur des points précis, ils disent non, nous on n'est pas d'accord et on va reconstruire une gauche différente de la France insoumise.
Bien, voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info et bien sûr, dès que ça s'anime sur le perron de l'Elysée, on sera en direct pour avoir la composition du futur gouvernement. Et puis sinon, on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée et à demain.